Radio Cité Genève.
Cité Culture. Épiphane Monfau.
Bienvenue à toutes et à tous dans Cité Culture aujourd'hui. Retour au château de Prangin, musée national suisse, pour la suite et la fin de notre reportage sur l'exposition Suisse Presse Photo 24, pour laquelle nous vous ferons encore découvrir d'autres thèmes de ces photographies journalistiques en compagnie de la conservatrice Marie-Hélène Pellet. Pour rappel, cette exposition se poursuit jusqu'au 2 février prochain. Reportage.
Cité Culture.
Vous avez des cas de chorie alors plus légères comme le sport. Et cette année, le sport, c'est toujours assez traditionnel. Dans le Suisse Presse, c'est normal, la Suisse, c'est quoi? C'est le tennis, le ski. Et cette année, je trouve assez drôle d'avoir ce hobby horse. C'est-à-dire que c'est un sport, c'est un peu comme du cheval, mais c'est sans la bête. Donc, vous savez, ces chevaux, il y a un bâton, puis un bout de tissu au bout. C'était déjà la mode au 18e, mais là, c'est devenu, ça a été redécouvert en Finlande, dans les années 2000. Et puis, là, on assiste à un concours de ces hobby horse. C'est souvent plutôt des jeunes filles, mais qui fabriquent leurs chevaux. Puis c'est très sérieux. Je veux dire, elles doivent sauter des obstacles. C'est à la fois des sauts d'obstacles et de dressage. Donc c'est les mêmes catégories que dans l'équitation. Et il y a un jury. On voit une dame qui mesure la hauteur d'une haie pour voir si elle est bien réglementaire. Et ça a beaucoup de succès auprès de jeunes filles, je dirais entre 5 et 16 ans, qui disent qu'elles prennent confiance en elles avec ce sport, qu'il y a une question d'autonomisation de leur personne et qu'elles sont, voilà, que c'est vraiment un sport qui leur convient bien. On le dit même un peu féministe, ce sport, parce que c'est essentiellement des jeunes filles. Mais c'est un reportage inhabituel, je dirais, qui nous fait découvrir une discipline qui a d'ailleurs été proposée pour les JO, mais qui n'a encore pas été retenue. Peut-être que ce sera l'année prochaine. Puis là, un autre reportage assez surprenant aussi dans le sport, c'est le demi-fond derrière moto. C'est-à-dire que c'est une moto, mais c'est une femme et c'est la première qui entraîne. On a découvert au 18e, 19e siècle que si vous voulez, si on coupe l'air devant un cycliste, il peut aller beaucoup plus vite. Et du coup, elle, c'est la moto, c'est le sniper qui peut entraîner, en fait, plus rapidement le cycliste en lui coupant l'air avec une moto qu'elle conduit, mais qui est très particulière, qui ne ressemble pas aux motos traditionnelles. Puis surtout, par exemple, elle a un gros habit de cuir qui déjà doit faire barrage pour le vent, pour aider le cycliste en fait à aller plus rapidement. Puis elle dit, c'est une dame qui est graphiste de métier, Nicole Frey, mais elle dit qu'elle allait voir ses courses, puis elle trouvait tellement sympathique cette équipe de deux personnes, et puis c'était un peu presque fascinant voir ses tours avec la moto, qu'elle a voulu devenir. Il n'y a pas vraiment de formation, elle a été formée par un ancien qui est capable de conduire une moto, parce qu'il faut être très régulier dans le rythme qu'on donne pour le cycliste qui suit derrière. Je trouve que ça nous fait découvrir d'autres mondes par le sport, alors que face par rapport à l'autre reportage qui est un troisième prix de Jan Ehrenzeller, alors c'est très triste, c'est la mort de en fait ce grand coureur cycliste qui s'appelle Gino Meder, qui lors d'une tour d'étape de Suisse, ils sont poussés à l'extrême, il avait déjà monté 3 cols je crois de plus avec des dénivellations incroyables, puis dans la dernière descente il allait à plus de 100 km/h et il est tombé dans le coma, ils ont pas pu le sauver, puis il avait 26 ans hein. Et là il y a un des coureurs cyclistes belges qui est monté au front disant mais on veut toujours du sensationnel de plus en plus, et voilà ce qui arrive. Donc là c'est toutes les équipes un peu minées après son décès. D'ailleurs la sixième étape, c'était lors de la cinquième étape qu'il est décédé, la sixième ils l'ont couru à blanc si vous voulez pour rendre hommage à Gino Meder. Alors c'est plus le cyclisme tel qu'on le connaît, mais je pense que c'est bien aussi. Ça permet, comme quoi toute catégorie permet aussi d'avoir peut-être un sujet plus sociétal et puis s'insurger contre certains états de fait comme le sport qui doit être un spectacle au risque et péril de la vie de jeunes. Hein. Et puis après, vous avez d'autres catégories. Alors la catégorie histoire suisse. Alors cette année, la catégorie histoire suisse, peut-être que je vous montre le premier prix parce qu'il est, au niveau de la thématique, est quand même surprenante et nous fait découvrir une problématique. C'est le gagnant, c'est Mathieu de Selweger, c'est un photographe de rôle qui, vous me posiez ces questions de comment il procède, ces photographes, et il a fait une thématique des assistants sexuels pour les handicapés, qui est une profession en fait interdite en France, hein, mais en Suisse c'est assimilé aux travailleurs sexuels. Et lui, son envie à Mathieu de Selweger, c'est toujours de montrer des sujets en photographie qui sont presque irracontables. Il l'avait fait sur des enfants morts-nés ou sur des gens qui sont bipolaires. C'est vrai que c'est très conceptuel, mais comment montrer avec beaucoup de respect? Alors, il a fait, vous rendez compte, 6000 photographies sur cette problématique-là et il en a choisi que 57. Et on sent dans son regard, il est toujours quand même en arrière-plan du couple, donc de l'handicapé qui passe un moment de plaisir avec un assistant sexuel. On sent bien ce regard dans un coin, si je puis dire, à l'arrière, avec beaucoup de respect, sans voyeurisme. En même temps, ben voilà, il faut avoir le courage de ce type de reportage pour nous ouvrir les yeux sur une réalité. C'est vrai que souvent, je pense que tout un chacun, on se dit, ben voilà, handicapé et sexualité, ça va pas de pair. Puis on n'en parle pas, le sujet est clos. Et là, c'est un courage de nous montrer, ben voilà, il travaille avec une association Corps Solidaire à Genève qui propose ses services et qui, ben voilà, après, ça suscite des réactions de part et d'autre. Mais c'est un sujet inhabituel, en tout cas dans la catégorie aussi Histoire Suisse.
Quelque chose de plus, peut-être plus inhabituel, aussi conceptuel, mais Annie Crump est une photographe qui s'attache beaucoup aux sentiments des humains. Elle a fait un reportage sur une femme qui a perdu son mari. Son mari a disparu, en fait. C'est pas qu'elle l'a perdu, il a disparu. Il a été une soirée chez un collègue qui fêtait son anniversaire. À 3h du matin, je crois qu'il a appelé sa femme lui disant, écoute, j'ai eu un petit accident, mais rien de grave, et puis j'aurai du retard, faut pas t'inquiéter. Et après, ils ont juste retrouvé la voiture un peu endommagée, et il a disparu. Donc maintenant, il est déclaré disparu depuis plus de 10 ans. Et comment vit cette femme ce drame? Comment elle peut se reconstruire? Avec quoi elle peut continuer à vivre, en fait? Est-ce que c'est de l'espoir? Et Annie Crump, donc, bon, la photographie a flouté. Le flou, c'est une manière aussi de plonger dans les souvenirs, voilà, d'être entre la réalité, ce qu'on peut imaginer, le rêve. Puis là, elle a imaginé ce qu'a pu voir son mari les derniers instants, parce qu'il avait fait de la route, 60 km pour aller vous trouver ce collègue. Et est-ce que c'est un panorama qu'il a vu? Ça, c'est une photo un peu pas truquée, mais enfin, imaginez. Donc, on est entre un reportage un petit peu plus artistique, créatif.
Et onirique.
Et onirique, exactement. Et vous verrez que dans World Press, c'est la même chose. Il y a 2-3 reportages. Et je trouve que c'est bien, ça ouvre les techniques photographiques. C'est pas que de la traditionnelle photographie de presse. Donc voilà, c'était courageux peut-être du jury de lui décerner le troisième prix.
Cité Culture. Épiphanie Monfo.
Nous avons vu les différentes catégories, notamment l'international remporté par Dominique Nard, le sport, Histoire Suisse. Et nous nous dirigeons gentiment vers
la catégorie portrait, qui cette année aussi, ben voilà, Dominique Nard, c'est le troisième prix qu'il a reçu pour des portraits très variés d'Ukrainiens et Ukrainiennes de tout âge, de 15 à 75 ans, dans leur lieu de vie. Donc on voit des lieux de vie plus ou moins vraiment très précaires, d'autres un peu plus, voilà, riches entre guillemets. Et il a voulu montrer par ses portraits, en fait, c'est un plaidoyer pour dire, ben, la population civile dans ces guerres, c'est elle qui finalement souffre le plus. Bien sûr, les soldats, c'est une chose, mais elle a rien demandé, la population civile, et ça bouleverse des milliers de vies de gens qui, voilà, est-ce qu'ils pourront se reconstruire. Et je trouve que c'est habile d'utiliser la catégorie portrait, qui est normalement une catégorie assez classique, comme je le disais, et pour un plaidoyer plutôt, en fait, d'opinion sur la guerre et finalement sur l'influence que ça aura pour la société civile. Et donc, je trouve que c'est une très belle série de portraits, et on sent par l'expression la diversité des caractères, des tempéraments. Je trouve qu'il y a des regards très tristes, il y en a d'autres qui ont l'air découragés, d'autres qui sont, où on sent quand même encore un peu de, voilà, de résilience. Enfin, c'est, voilà, ça dit beaucoup, et on se dit que c'est vraiment, ça fait longtemps que la population ukrainienne souffre en silence, et on leur donne pas de voix, en fait, à ces gens. D'habitude, on voit des photos de guerre, ben, certes, il faut aussi les montrer, mais là, c'est un hommage aussi à cette population qui essaie de continuer à espérer et de se battre. Et puis d'autres portraits, alors le contraste c'est peut-être assez flagrant, mais la Suisse a aussi cette image à la fois, ben oui, d'être prise dans le monde, d'être concernée par l'afflux des réfugiés, mais elle a toujours ce folklore qu'elle entretient, bon gré mal gré, qui a fait peut-être aussi sa richesse au niveau du tourisme. Et là on voit Lisa Stoll, qui est une jeune joueuse de yodel, mais connue en fait, et qui se produit, qui est adorée au Japon. Et là c'est ce contraste de Tokyo, cette ville, ben, voilà, bétonnée,
avec des enseignes lumineuses, grouillantes de montres, et notre Lisa Stoll de 27 ans en costume traditionnel, je crois, zurichois, et qui est avec son yodel. Donc c'est le folklore versus, mais on sait que les Japonais adorent ce qu'ils disent kawaii, donc des petites choses très, voilà, jolies et champêtres. Et puis il y a ce fameux chanteur, moi j'avoue que je connaissais pas, mais c'est là qu'on voit un peu le Rushdie Graben, ce musicien bernois, mais très connu, Gueula, qui se prénomme, ça c'est son nom d'artiste, et qui joue, qui dit qu'il est plus fier d'être suisse que de la musique qu'il fait. Alors là, il y a vraiment un peu tous les topos, il y a le chalet, les géraniums, les petits rideaux brodés, et puis bon, il a un peu les bras noueux, comme les personnages de Hodler, du peintre Hodler, des grands bûcherons. Donc voilà, on a de la peine, on verrait plutôt en lutteur qu'en chanteur, mais voilà. Donc là, c'est vraiment le folklore suisse qui est exploité, voilà, aussi par ces artistes, ben, ils ont raison, hein, pour vendre leur art. Je pense que ça marche toujours bien dans le monde, l'image, voilà, un peu champêtre de la Suisse.
Absolument.
Puis d'autres portraits. Il y a aussi pas mal d'utilisation du noir-blanc. Alors là, c'est Nicolas Brodard. Bon, il faut dire que c'est un photographe qui vient du cinéma, du documentaire. Donc, il est le photographe attitré du Verbier Festival. Et il a pu, chose en général assez difficile, approcher cette grande pianiste chinoise qui est devenue très connue lors d'un remplacement d'une grande autre pianiste, Martha Argerich. Et puis, elle aussi entre... voilà, quelqu'un qui se concentre énormément, qui est lointain, qui pratique son art, et puis elle a presque des tenues, j'ai vu sur d'autres vidéos des manières d'être de mannequin. Elle aime, je crois, ce qui est, voilà, elle aime la scène, en même temps elle aime se mettre en scène, et en même temps elle a besoin d'une concentration, ce qui est le cas de tous les grands musiciens extrêmes. Et voilà, donc c'est toute la préparation d'un artiste, d'un grand musicien. Il y a aussi le corps, la souplesse, voilà, il faut pouvoir bien respirer, on se rend pas compte, donc c'est un peu l'arrière-scène, et c'est des belles photos noir-blanc. Le noir-blanc est aussi un peu atemporel.
Absolument.
Voilà, et ça nous donne, je pense, un autre regard. Le noir-blanc permet aussi de se concentrer, d'être pas attiré par d'autres éléments. C'est vraiment le focus sur cet artiste.
Exactement.
Puis là, il y a une histoire très touchante de ce portrait deuxième prix de cet Autrichien. C'est un monsieur qui est âgé, maintenant passé 90 ans, qui était en fait, qui a été en relais dans l'armée et qui a dû combattre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et en fait, il était dans l'armée allemande, et ça, il a jamais osé le révéler. Il a failli d'ailleurs mourir à la fin de la guerre parce que, en fait, il avait déserté et il avait peur. Il est tombé sur deux soldats de la Waffen-SS qui lui ont dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Puis il a dit que non, mais qu'il était parti se protéger des Américains, et on l'a pas tué. Et après, il a voulu refaire sa vie. Il est parti en Suisse et il est devenu un boulanger assez réputé à Bienne. Mais c'est enfin maintenant qu'il ose parler de ce passé, mais contre sa volonté. Il avait pas le choix. Il a dû se relayer. Voilà, c'était. On se rend pas compte de la pression qu'il y avait sur ces jeunes hommes. Et donc, c'est assez touchant parce qu'il a l'air quand même assez serein, mais qu'il ait gardé ce secret pendant toute cette vie. Donc là, grâce à un portrait avec deux images, on a un récit d'une vie, de toute une vie, en fait. Et on comprend pourquoi il a mis ce tableau de lui en soldat. Et voilà, c'était ce qu'il avait reçu comme brave soldat dans l'armée autrichienne et allemande, en fait. Donc ça, c'est un fait d'histoire qui ressort à travers un portrait. Donc c'est aussi assez très original. Puis là, les hommes politiques, les portraits d'hommes politiques, personnellement, ça me touche un peu moins, mais c'est
vrai. On adore.
on les connaît. Voilà, pour eux, c'est important. Et là, c'était un peu, bon, c'est une boutade, mais sur un peu le thème de la cravate, finalement. Montrer que tous, en tout cas, Monsieur Rushdie, l'actuel conseiller fédéral, il ne peut pas vivre sans cravate. Donc, dès qu'elle est tachée, il la change. Et puis, il y a juste Berset, Alain Berset, mais ça nous surprend pas, qui est toujours un peu dissident, et qui, lui, dès qu'il peut, il la met derrière son cou. Il la bazarde, si je puis dire, pour se sentir peut-être plus libre.
Et là, sur la photo, le lunette noire à la Men in Black.
Oui, exactement, c'est vraiment ça. C'est, oui, je n'osais pas le dire, mais c'est tout à fait ça. Non, donc là, voilà, très plus de légèreté. Voilà, on va dire, évidemment, c'est les Belges, diront les Suisses allemands que c'est...
C'est l'actuel secrétaire du Conseil de l'Europe, c'est bien cela?
Oui, vous avez raison.
Secrétaire du Conseil de l'Europe,
oui, c'est
bien cela.
Cité Culture, Epiphanie Monfaux.
avec Marie-Hélène Pellet, conservatrice au château de Prangin, musée national suisse. Nous y sommes pour cette exposition Suisse Presse Photo 2024 jusqu'au 2 février prochain. Et nous déambulons dans l'ancien pressoir du château.
Voilà, alors là, on se trouve dans la deuxième salle qui présente les catégories, notamment vie quotidienne, qui sont toujours intéressantes, originales comme angle d'approche. Alors, le gagnant, c'est Guillaume Perret, qui est ce photographe-ci, qui est un Neuchâtelois, qui est venu très tard à la photographie, qui était enseignant, maçon, enfin, il a beaucoup roulé sa bosse. Et il s'intéresse toujours un peu à la marginalité, si je puis dire, aussi au rapport qu'on a avec son propre corps, comment est-ce qu'on le met, on le montre aux autres. Et là, il a fait un reportage, mais aussi avec beaucoup de patience. Il est retourné plusieurs fois dans un camping sur des gens qui habitent toute l'année dans un camping au-dessus de Lausanne. Et en fait, il s'est avéré que c'est des gens qui souvent ont un peu honte de leur situation. Je pense que c'est des gens qui financièrement sont aussi plus dans la précarité de vivre toute l'année dans un camping et qui avaient de la peine à se dévoiler. Et avec pudeur, il arrive quand même à montrer, ben voilà, ces personnes, comment elles vivent, leur corps, les liens qu'il y a dans ce camping. Voilà, c'est un lieu de reportage très atypique et de gens qu'on oublie, en fait, qui sont un peu en dehors de la société. Voilà, ils vivent dans des structures qui, normalement, sont pas faites pour y vivre toute l'année. Et voilà, et souvent, d'après ce que j'ai pu lire, c'est des gens qui ont eu des parcours de vie, peut-être, des fois assez difficiles et qui, voilà, se sentent à la fois dans la société, mais en même temps ont besoin d'un lieu de vie un peu cocon. Donc, je trouve assez très original comme point de vue. Et puis, alors, un reportage qui est quand même assez dur, je trouve, mais voilà, on a des jeunes collaborateurs qui trouvent que c'est la vie actuelle, c'est la problématique de vouloir partir en le décidant soi-même avec Exit. Et là, on suit un monsieur qui était fort sympathique, un monsieur qui était chauffeur de taxi, passé 80 ans, qui avait l'air vraiment, qui était un homme très gai et très, mais qui brusquement a eu des douleurs terribles dans tout le corps, de maladies, en fait, si vous voulez, orphelines. Donc, on ne pouvait pas le guérir. Il a essayé, il a fait des soins. Et donc, il n'en pouvait plus de ses souffrances. Au quotidien, on ne voit pas, c'était de la polyarthrite, enfin, c'était vraiment des douleurs. Donc, il a décidé de faire appel à Exit. Et lui, explique en fait que il l'a fait aussi, il a été d'accord qu'il soit suivi par une journaliste, Karine Bozin, qui est genevoise mais qui a été mandatée par l'Illustré. Il a été d'accord pas du tout pour le côté sensationnel ou parce qu'il voulait que sa mémoire reste, mais pour montrer aux gens que c'était pas du tout terrible de partir avec Exit, que pour ceux qui en avaient besoin parce qu'ils avaient trop de souffrance, il fallait pas avoir peur du processus Exit. Chapeau de sa part, c'est d'une générosité. Finalement, il est sujet de toutes les scènes et on le voit, il dit au revoir comme il était chauffeur de taxi, son plus grand drame c'était de dire au revoir sa voiture. Et après, bon, il en a marre de la paperasserie parce que c'est quand même, on lui a demandé si vraiment il voulait pas annuler sa décision. Et il a tenu bon, vraiment tout du long, les derniers 3 mois. Puis là, il fête encore son départ la veille. Il boit des verres dans un bistrot qu'il aimait bien de son quartier avec ses copains qui, eux, ont un peu moins le moral que lui, finalement. Puis après, on voit la dernière photo très pudique. On voit plus qu'une partie de ses jambes. Et là, on comprend que le processus a eu lieu. En fait, on prend une boisson, on tombe un peu dans le coma. Et puis après, finalement, donc c'est vraiment sans souffrance. La respiration s'arrête et voilà, il est parti. Mais c'était pour lui un soulagement et je trouve, ouais, vraiment, c'est une belle histoire de cet homme qui a voulu faire ce geste pour dire, mais n'ayez pas peur si vous en avez besoin, voilà. Donc voilà, c'est quand même inhabituel de parler de plus en plus ouvertement aussi de ces questions-là. Et ça, c'est des sujets sociétaux quand même qui reviennent assez souvent. Hein.
Et Karine Bozin, elle est souvent dans les sujets assez sociétaux. L'année dernière, les cabanes de plage au Bain des Paquis.
Oui, exactement. Non, c'est une photographe qui s'intéresse aussi à la société de nos jours, puis comment traduire des phénomènes. Et puis voilà, là c'est plutôt par rapport à lié à l'environnement, à la protection de la nature, mais ça touche une question quand même assez importante, les dérèglements climatiques, le rapport de l'homme avec son environnement. Alors là c'est plutôt positif, c'est en fait un monsieur qui élève des écrevisses de lac au lac de Joux, mais il dit que son élevage d'une race indigène, donc suisse, est bénéfique parce que autrement ces écrevisses étaient envahies par l'écrevisse américaine qui amenait une maladie et donc elles étaient affaiblie par cette écrevisse américaine et finalement elle ne survivait pas. Donc même si après il les vend dans un restaurant, il dit qu'il fait une œuvre un peu de prophylaxie pour les écrevisses indigènes. Et puis alors là, c'est une photo très touchante. En fait, les faons sont souvent tués lors des moissons par les moissonneuses batteuses. Et il y a eu tout un groupement de personnes bénévoles qui, avec des drones et des chaleurs thermiques, ont pu repérer ces jeunes faons. Et les paysans pouvaient faire appel à ces gens gratuitement. Il y a eu à peu près, je crois, 40 demandes de paysans. C'est dans dans le canton de Zoug. Et avec ça, ils ont sauvé 50 jeunes fonds. Donc c'est magnifique, cette collaboration entre les paysans qui doivent, vivre aussi de la terre et les bénévoles, en fait, de ces associations. Alors, je dirais que le gros sujet de l'année 2023, c'est très typique de la Suisse, c'est, à part la tradition du yodel, c'est les banques, quand même, qui font le terreau de la Suisse. Et là, il y a eu ce grand crack de Crédit Suisse, qui était quand même la deuxième banque de Suisse et qui a dû jeter l'éponge. Et là, je pense que ça a pris pas mal. Là, c'est une séance, une assemblée générale, que Mark Henley. Donc, Mark Henley, ce grand photographe qui a beaucoup travaillé sur les banques, il a toujours utilisé, il expliquait le noir-blanc pour le sujet des banques, à la fois pour le secret bancaire, c'était un clin d'œil, et puis pour dire c'est un sujet tellement sérieux en Suisse. Et là, il est revenu sur la scène. Il avait d'ailleurs déjà gagné un Swiss Press avec un banquier qui courait sur Paradeplatz. Il y avait une image très belle avec de la pluie. Et là, il a repris son appareil pour ce sujet spécifique. Et là, j'aurais pas aimé être à la place de Axel Lehmann, qui était le président du conseil d'administration de Crédit Suisse, quand il a dû annoncer qu'il jetait l'éponge devant tous les actionnaires. Et on sent cet homme seul face à cette rangée d'actionnaires. C'est vrai, les actionnaires, ils ont rien à dire. Ils sont anonymes. D'ailleurs, on voit cet homme debout, de dos. On sait pas qui c'est face à cet homme qui, est sur grand écran, mais qui doit assumer. Et alors, son excuse, c'était de dire qu'ils ont pas eu assez de temps. Voilà. Et puis qu'ils pouvaient plus continuer parce qu'ils avaient un déficit de 7 et quelques milliards. Mais je pense que, ça a été très mal perçu par les actionnaires, ça c'est certain. Bon, il y a eu le soutien du Conseil fédéral, mais ça a été une affaire d'État chez nous, les banques.
Absolument.
C'est une affaire d'État. Et puis là, il y a des manifestants, alors qu'ils en ont rajouté une couche, peut-être à bon escient, je dis pas, des activistes qui ont mis des masques qui représentaient, par exemple, Axel Lehmann ou d'autres dirigeants du Crédit Suisse pour accuser le Crédit Suisse d'avoir verser de l'argent qui était peut-être de l'argent blanchi au Mozambique. Il faudrait qu'ils payent maintenant. Alors évidemment, entre la déconfiture de Crédit Suisse, puis s'ils doivent tout rattraper ce qu'ils ont fait comme malversation, l'affaire est difficile, dirais-je. Et puis là, c'est de nouveau une photographie très belle, je trouve, mais sans la légende, on se dit, c'est une scène de rue devant l'UBS, peut-être sûrement à Zurich. Voilà, so what, j'ai envie de dire. Mais en fait, il y a eu une manifestation, mais on le comprend qu'avec la légende. Et c'est pour ça qu'il y a cette espèce d'agitation devant une entrée de l'UBS. Mais c'est juste l'après, c'est juste la seconde peut-être après que les manifestants soient partis. Peut-être qu'on peut... on a l'impression que c'est une scène de rue où il y a beaucoup de gens qui passent dans une grande ville en Suisse. Mais ça a fait un gros reportage qui a gagné l'actualité. Puis là, c'est je sais plus la fonction de ce monsieur, s'il est, mais je crois directeur, qui doit rendre des comptes face à la presse. Et là, il y a une dynamique. Finalement, il n'y a pas grand-chose qui se passe, mais tous ces lumières, ces structures, ces câbles, il y a beaucoup de dynamique autour de cet homme. On sent qu'il y a de l'effervescence aussi des médias. C'était le sujet du mois de mars.
Cité Culture. Épiphane Monfaux.
Il y a une très belle photo, cette fois-ci, en couleur, de Denis Balibous, qui est aussi un grand photographe, pour l'agence France Presse, si je me trompe pas, de tous ces incendies dans le Haut-Valais à Beach, il y a eu un foyer qui s'est étendu parce qu'il y avait aussi beaucoup de sécheresse. Et d'après ce que j'ai lu, parce que c'était pas mis dans les légendes des photographies, mais finalement, ils ont découvert, la police a dû faire une enquête, que c'était un incendie criminel. Mais je tiens à souligner qu'il y avait quand même une sécheresse très favorable. Et ça, c'est un dérèglement quand même lié un peu au climat. Et là, il y a eu un balai. Alors là, dans le ciel, on voit un balai à la fois d'hélicoptères, de pumas qui déversaient de l'eau. Ça a vraiment eu un impact au niveau financier dans le coup. Et puis évidemment, des arbres, énormément d'arbres qui sont morts. Donc il va falloir cette nature qui a été très violentée, je dirais. De même, là, Michael Buchholzer, troisième prix actualité, c'est cet éboulement à Brienne. Vous avez peut-être entendu que d'ici à dimanche, les habitants doivent de nouveau... Alors, en fait, j'ai lu qu'il fallait pas dire éboulement, c'est des glissements de terrain. J'ai pas réussi à savoir si c'est quand même dû au changement climatique. Bon, je crois que quand même au mois de mai, quand c'est arrivé, il y a eu beaucoup de pluie. Et ça n'aide pas, si vous voulez. C'est un des facteurs. Mais on peut pas dire. Je pense que là, la roche est assez mobile, elle bouge beaucoup. Mais ce village, qui est quand même très connu aussi au niveau touristique, je sais pas si les gens vont, parce que ça atteint quand même les infrastructures, les routes. Alors, ils ont eu beaucoup de chance. Ça a pas cassé le clocher de l'église. Ça a pas touché les habitations. Mais jusqu'à quand ça peut durer, ce scénario? Et ça doit être quand même assez angoissant pour les gens. Et c'est toujours, je pense, dans ces situations, les personnes âgées souhaitent rester. C'est leur racines, c'est leur lieu de vie, c'est leur voilà. Et puis il faut quand même être prudent. Donc ça doit pas être évident à gérer comme annonce à faire à la population. J'aimerais pas être dans les équipes de voilà prévention de ces catastrophes naturelles. Mais on constate qu'il y en a de plus en plus. Hein.
Absolument.
Et puis là, alors voilà, c'est une visite comme on a l'habitude, de, disons une visite étatique. Il y a eu Macron qui est venu en Suisse. Et puis moi, je trouve qu'il y a un côté un peu désuet dans le sens qu'on fait encore des programmes pour les épouses de dirigeants. Elles ont toujours un peu la partie culture. La culture, c'est pour les femmes et pas pour les hommes. Donc elles visitent le Grand Théâtre, Brigitte Macron, compagnie de Madame Berset, Muriel. Enfin, on ne doit pas dire Madame Berset, Muriel Zender. Et puis alors, il y a une scène très touchante, spontanée. Elle visitait aussi une école française à Berne, et il y a un petit garçon qui est tout content de se blottir dans les bras de Madame Macron. La scène est très touchante, en fait, avec ces jeunes, voilà, autour de cette première dame. Puis ça contraste entre l'intimité, hein, une scène plus affective, en fait, où il y a des sentiments avec voilà ces gens qui sont dans le hall du Grand Théâtre, magnifique, mais voilà un décorum très officiel. Mais je trouvais que ce côté encore un peu, on fait un programme séparé pour les dames, ça fait un peu sourire.
Exactement, on reconnaît sur la photo Xavier Auberçon, également Sidi Larbi El Cherkaoui, le directeur artistique du ballet du Grand Théâtre, et bien entendu Madame Macron, Brigitte Macron, habillée en ensemble tailleur, quand même bien habillée.
Oui, toujours très bien habillé avec des hauts talons à la française.
Des hauts talons, oui, exactement.
À la parisienne, oui. Tout à fait. Alors voilà pour l'actualité. Là, une actualité peut-être plus dure, mais je ne sais pas si... voilà, une recrudescence de crack, en fait, qui aussi est beaucoup moins cher. Et donc ça, c'est un beau reportage au niveau visuel, hein, aussi avec un emploi du noir-blanc, mais drogué qui prend sa dose, si je puis dire, dans les rues à Genève. Et c'est quand même toujours dur de voir ça, de se dire que, voilà, ce contraste entre une ville quand même très, très flamboyante et aussi quand même, où on a l'impression que la richesse coule à flot, et le contraste de ces quartiers près de la gare où, non, il y a une misère. Est-ce que les gens, peut-être de l'extérieur, même les étrangers, ont de la peine à réaliser la Suisse est justement, comme vous disiez, fait plein de contrastes. À Zurich aussi, il y a en fait des gens qu'on ne voit pas, mais qui vivent dans la rue, qui vivent dans des piscines publiques, vous savez, parce qu'ils ont finalement, c'est des gens qui avaient des fois des fonctions, mais qui sont tombés dans de la drogue pour être aussi performants dans leur vie professionnelle, et puis ils tombent de l'autre côté de la barrière. Et ces villes comme Genève, Zurich, je pense, ont des contrastes très forts. Donc voilà pour ces photographies. Et là, disons que c'est des élections, voilà, alors du nouveau conseiller fédéral, qui a remplacé d'ailleurs Berset, hein, Balois, Beat Jans, tellement heureux d'avoir, ce qu'on peut imaginer, hein, mais le photographe, là, était là juste au bon moment où il manifeste une joie, c'est quelqu'un d'assez, qui m'a l'air assez contrôlé, assez, voilà, calme, mais là, alors, il éclate de joie, et avec sa famille, ses deux filles, sa femme, là, on dirait que, voilà, c'est assez personnel, finalement, comme photo, alors qu'on est sous la coupole. Et puis, mais c'est très, ça fait quand même grande famille, je trouve, en Suisse, ces élections. C'est à la fois très important, mais pas si solennel que ça. On est très démocratique, mais c'est...
Mais il a su vraiment saisir le moment, parce que tout est flou autour. Exactement. Et lui, un point focal très net, exactement.
Et puis là, alors c'est à la fois des deux visites ou deux voilà, de moments où Alain Berset est encore président, très différent. Il sort d'une mosquée avec sa femme, un voyage officiel où Julie de Tribolet, la photographe attitrée de l'illustré, avait eu la permission, avait l'exclusivité pour ce reportage. Elle a su aussi juste prendre la photo au bon moment, en même temps quand ils sortent l'un l'autre, alors qu'ils sortent pas de la même porte.
Ils posent le pied au même moment.
Exactement, voilà, le même habit. Il y a beaucoup de voilà des regards aussi vers l'extérieur. Et ils ont l'air d'avoir été impressionnés de visiter cette mosquée, je pense. Et puis alors là, un autre, tout autre contexte, un street parade, et là on voit le penchant un peu aimé, se déguiser d'Alain Berset. Je crois que c'est quelqu'un qui aime se mettre aussi en scène. Il venait toujours au festival de Locarno, du film. Je pense que s'il poussait un peu plus loin, il aurait pu devenir acteur. La photo est assez amusante, parce qu'on s'attend quand même pas à le voir avec un boa rouge, à plume, son canotier, cette fois bleu, couleur bleu.
Lunettes de soleil.
Lunettes, voilà, pilote, le tout est très réussi, je dirais, dans sa tenue. Et puis là, cette fameuse altercation, mais qui a fait le tour du monde et l'activiste du climat a réussi son coup, si je puis dire, c'est au moment des élections à Genève, où là, il a voulu interrompre la présentation de Jérôme Sédoux de la télévision qui présentait ses élections en collant sa main sur le pupitre. Et Jérôme Sédoux a dit non, mais vous n'allez pas vous coller la main. Et cet activiste, c'était juste pour dire attention, vous êtes nommé, la plupart des gens, c'était des gens de droite, faites attention à ce sujet d'actualité, mais vraiment hyper important. Et ça a fait le buzz, Je crois que ça a été cliqué à travers le monde entier. Donc, il a atteint plus que bien ses fins. Puis là, c'est la conseillère Lisa Mazzone qui a une mine un peu défaite parce qu'elle n'a pas été réélue. Et elle est, bon, évidemment, elle est prise sur le vif en marchant dans les rues de Genève lors de ce dimanche d'élection. Donc, voilà un peu la vie politique en image, en couleur.
Et oui, cette visite vraiment marquante et poignante de ce Suisse Presse Photo édition 2024 avec ses photos et ses thèmes, ses thématiques que vous nous avez fait vivre, Marie-Hélène Pellet, conservatrice ici au château de Prangin, musée national suisse. Merci à vous. Nous achevons cette visite de ce Suisse Presse Photo. Merci à toutes et à tous et belle suite de journée à l'écoute de notre antenne Radio Cité Genève 92.2 FM.